Bonjour à tous. Après la fabrique de l'histoire et les chemins de la philosophie, la planète se réchauffe. Comment on s'y prépare? Votre journée spéciale se poursuit à partir de 12h55 dans la grande table des idées avec la diffusion de notre table ronde qui réunissait l'auteur de bande dessinée Enki Bilal, le militant essayiste Cyril Dion et la biologiste Anne-Caroline Prévost autour des fictions climatiques et autour de notre besoin de récits pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Mais d'abord, Philippe Jordan, tambour battant. Nous l'avons rencontré hier dans son bureau de l'Opéra Bastille, directeur de la musique de l'Opéra de Paris depuis 10 ans, le chef d'orchestre suisse va diriger les Troyens de Berlioz à partir du 25 janvier. Alors qu'il s'apprête à rejoindre l'Opéra de Vienne, il revient sur sa passion Wagner, ses chefs d'orchestre modèles, ses compositeurs et les perles méconnues du répertoire russe, à découvrir d'ailleurs dans l'intégrale des symphonies de Tchaïkovski qu'il a enregistrées et qui sera bientôt disponible en coffret DVD.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Philippe Jordan.
Bonjour.
On vous retrouvera à la direction de l'Orchestre de l'Opéra de Paris à Bastille à partir du 25 janvier pour cette œuvre monstre que sont les Troyens de Berlioz et son grand opéra qui viendra aussi fermer le cycle que vous avez imaginé, le cycle Berlioz, qui avait commencé avec la damnation de Faust, avec Béatrice et Bénédicte et avec Benvenuto Cellini. Donc les Troyens referment ce cycle. C'était une envie pour vous de mettre ce répertoire français à nouveau à l'honneur?
Absolument, parce que je me sentais responsable comme directeur musical de s'occuper et s'investir au grand répertoire français. Et ce qu'on a fait avec Ravel, Debussy, dans les concerts, avec l'orchestre. Mais au centre, c'était vraiment que moi, avec mes équipes, mon orchestre, le chœur, et en rapport avec le public, qu'on donne un peu plus d'attention à ce génie. Hein. C'est quand même lui et Berlioz et Debussy, c'est les compositeurs les plus influents pour l'histoire de la musique, tout d'abord en France, mais aussi en général. Hein. Il y a trois compositeurs, c'est Berlioz, c'est Debussy, et pour le XXe siècle, c'est Pierre Boulez. Et pour moi, c'était très intéressant parce que j'avais pas un grand rapport avec Berlioz au tout début. J'ai dirigé la Symphonie Fantastique plusieurs fois, les Nuits d'été. Mais c'était une chance extraordinaire. Ça a commencé avec la damnation de Faust, parce que c'était Jonas Kaufmann qui voulait absolument le chanter à Bastille. Et puis on a vu, ah oui, ça peut bien marcher comme un cycle. Vous voyez, de faire à Garnier, Béatrice et Bénédicte en version de concert avec plutôt des jeunes chanteurs français qui sortaient de l'académie, qui font une belle carrière maintenant déjà, et de terminer avec les Troyens, justement, et ça tombait justement sur les 30 ans de l'Opéra Bastille qui était ouvert avec les Troyens. C'était une belle occasion de vraiment se consacrer à ce grand compositeur et de travailler sur son style, d'entrer plus dans ce style et qui peut aussi marquer notre façon de travailler avec l'orchestre et développer notre travail, notre sonorité.
Grand compositeur, vous le dites, Philippe Jordan, et en même temps un peu sous-estimé. Pourquoi? Pourquoi Berlioz est un peu le mauvais garçon de la musique?
Parce qu'il était bien avant son temps, ouais, comme tous les grands génies. Et Berlioz, rendez-vous compte quand même, la Symphonie Fantastique était écrite en 1830, c'est-à-dire le premier poème symphonique. Ça n'existait pas avant, un poème symphonique. Il l'appelait pas ce poème symphonique, mais en vérité, c'était ça. Alors déjà, de chercher à ce temps-là, avec une musique qui était, même pour nos jours, quelques passages toujours difficiles à comprendre. Le début du dernier mouvement de la Symphonie Fantastique, l'introduction du sabbat, c'est la musique contemporaine. C'est des dissonances partout. Si vous le connaissez pas, vous pouvez croire que c'est du Messian. Il est extrêmement devant son temps et il aime bien les masses. Alors il a communiqué avec un public, avec des grands chœurs, des grands orchestres qui parlaient tout de suite. Mais en même temps, il a fait beaucoup d'expérimentel. Et il faut toujours l'aider à l'établir. Et un peu moins en France, parce que là, il est quand même parti du vécu, mais à l'étranger, beaucoup. Alors, je fais à Vienne, avec mon orchestre symphonique aussi, un cycle Berlioz cette saison-là, parce que c'est des grandes œuvres qui sont maintenant, dans notre temps, je crois, plus faciles à comprendre.
viennent parce qu'il y a le symphonique aujourd'hui, viennent aussi parce que vous allez diriger, en quittant l'Opéra de Paris, l'Opéra de Vienne, autour de 2021, hein, l'entrée 2020, en fonction 2020, ouais. Hein, ce sera 2021, à l'Opéra de Vienne. Tout à fait, ouais. J'en reviens à ces Troyens, œuvre phare de Berlioz, mais aussi œuvre monumentale. On va écouter, si vous le voulez bien, un extrait de ces Troyens dans une version de l'Orchestre de Paris dirigée par Daniel Barenboim, extrait de l'acte 3, Chasse royale et orage. Alors un extrait de cette direction par Daniel Barenboim, parce que ce sera une création aujourd'hui sur la scène donc de l'Opéra Bastille. Vous serez à la direction, Philippe Jordan, et c'est Dimitri Tcherniakov qui se charge de la mise en scène. C'est un metteur en scène russe avec lequel vous avez déjà travaillé. Vous
non,
avez
jamais.
Appris à vous rencontrer.
On attendit très longtemps et voilà.
Qu'est-ce que vous vouliez là sur ces Troyens? Comment avez-vous envie de les entendre résonner?
C'est difficile à dire parce que je découvre toujours, hein, parce que toujours quand on fait une pièce pour la première fois. Mais ce que j'ai compris avec Berlioz depuis que je le fais, bon, pour moi, c'est tout d'abord humain. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, dans Berlioz, il y a trois choses qu'il faut voir. Oui, c'est, quelque part, faire ressortir la folie, ouais, et ce côté révolutionnaire qui est dedans, ouais, et ce côté provocant, le côté aussi un peu maladroit, hein, qui au gauche quelque part, ouais, qui pas dans les règles musicales, ouais. Alors il faut l'accepter, il faut le faire sortir. Deuxième chose, il faut pas aller au premier degré sur les passages, sur les grands tubes. Sinon, cette musique peut être assez vite plate et il faut que ça soit soigné. Et puis, bien sûr, il y a les perles chez Berlioz. Ça, c'est la troisième chose. Et je crois que ça, c'est la raison pourquoi j'aime Berlioz. Le côté intime de Berlioz qui commence avec l'unité quand il était tout jeune. Mais surtout dans les Troyens, c'est surtout dans le quatrième acte où il y a tous ces perles magnifiques, hein, qui d'abord commencent avec la chasse royale et l'orage. Mais après, il y a le chant magnifique de Iopas, il y a le quintet, il y a le septuor et en plus, il y a le duo fameux Nuit d'ivresse entre Didon et Né. Ça, c'est pour moi le grand Berlioz. Le grand Berlioz avec un sens pour le lyrisme, pour le chant, pour la beauté des voix et la profondeur.
Philippe Jordan, vous avez accepté de poser vos valises ou une de vos valises ici à Paris il y a 10 ans pour diriger la musique à l'Opéra de Paris. C'était
Deux valises.
Les deux, vous n'en avez pas laissé une à Vienne aussi?
Ça, c'était la troisième.
Ouais. C'était la troisième, d'accord. En tout cas, vous avez commencé votre direction à compter de la saison 2009-2010. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant ici, justement, vous dirigez presque immédiatement les deux premiers volets de la tétralogie de Wagner que vous avez évoqué et qui étaient presque sortis du répertoire de l'Opéra de Paris. Alors, ce Ring de Wagner que vous connaissez sur le bout des doigts, c'est plus de 10 heures de musique, c'est 4 volets.
16 heures.
16 heures, si on met les 4 volets bout à bout. Ouais. Sportif. Vous l'avez voulu, cette tétralogie, parce que c'était d'abord une prouesse technique aussi pour le chef d'orchestre, ou vraiment pour remettre en avant ce compositeur qui vous est cher, comme Berlioz, vous le disiez tout à l'heure, parce qu'il a une approche toute particulière aussi de la complexité humaine à travers ses œuvres.
Oui, la tétralogie, c'est toujours un projet énorme, ouais, et qui met ensemble toutes les forces d'une maison, mais aussi un public. Et de commencer la tétralogie, c'était une évidence à l'époque avec Nicolas Joël et moi, quand lui a proposé la tétralogie, on s'est posé la question, oui, peut-être la deuxième, troisième année où on est mieux installé dans la maison, mais à la fin, on s'est dit, non, il faut commencer avec ça, parce que il faut commencer avec un projet, vraiment quelque chose qui lie la maison avec le public sur un certain répertoire. Et aussi, justement, comme directeur musical, et en plus, il faut savoir qu'il n'y avait pas de directeur musical pour des années avant mon arrivée, qui puisse travailler avec les deux équipes de l'orchestre, parce que notre orchestre à l'Opéra, c'est deux équipes différentes, sur le même répertoire, un répertoire très demandant pour l'orchestre, mais qui fait aussi envie à jouer l'orchestre, et de travailler sur la sonorité, tout d'abord, sur l'identité du son, c'est-à-dire le son Wagner, mais aussi comment un orchestre, un très bon orchestre français, peut jouer Wagner dans nos jours, et d'installer aussi une façon de travail. Et ça, c'était une occasion extraordinaire, parce que ça prenait les deux premières saisons pour installer. Et la quatrième saison, on a repris pour faire le cycle. Ça a vraiment formé le travail avec moi et l'orchestre.
On vient d'écouter un extrait de la Valkyrie de Wagner que vous avez dirigé et enregistré en 2013 chez Erato avec l'orchestre de l'Opéra de Paris. Vous êtes tombé, Philippe Jordan, dans le chaudron très tôt. Vous êtes né à Zurich dans une famille d'artistes, musiciens. Votre mère était danseuse et votre père, chef d'orchestre, Armin Jordan. C'est lui sur la photo, là ?
Oui.
Oui ? Dans votre bureau ?
Oui.
Le piano, on l'a ici pour rappel aussi dans votre bureau. On imagine que vous travaillez parfois dessus.
Bien sûr.
Pour quoi, par exemple, la dernière fois, c'était ?
Dès que je fais un concert musique de chambre avec les musiciens d'orchestre, ou je fais un récital à Garnier avec, par exemple, René Fleming ou Joyce DiDonato, ça me donne la possibilité de jouer de nouveau du piano, ce que je fais rarement ces jours-là, et ça fait du bien d'être responsable de ses propres notes et de travailler. C'est un travail très intime qui me fait du bien, que je peux faire rarement avec mon calendrier, mais de temps en temps, c'est très important.
Qui peut nourrir votre direction. Armin Jordan, votre père, on a retrouvé des mots de lui, une archive de 2001, et dans cette archive, il fait le lien entre votre métier et le mien. Je vous propose de l'écouter.
C'est vrai qu'une chose que je voulais aussi faire comme métier, c'était journaliste. Et ça, c'est toute la même chose. La communication avec les gens, discuter, communiquer, tout ça. Et ça, c'est un petit peu ce que le chef d'orchestre fait, puisqu'il ne fait pas une note. Alors, il est bien obligé de communiquer, au moins, d'avoir des relations avec des gens. Moi, ça m'aurait jamais intéressé de passer ma vie tout seul derrière un piano. Moi, je veux faire ça avec des gens. Donc, c'est la communication. Il y a des métiers comme ça. Ça peut être journaliste, ça peut être chef d'orchestre, ça peut être chauffeur de taxi. Ils ont aussi des communications tous les jours avec les gens. Et puis c'est ça qui m'a quand même passionné, ce contact.
Comme chef d'orchestre, vous pensez que vous êtes aussi un communicant ? Vous voyez comme tel ?
Ah, je suis tout à fait d'accord avec mon père. Hein. C'est pourquoi ça m'a fasciné ce qu'il faisait quand j'étais petit. C'était de justement pas travailler son piano tout seul. Hein. C'est de faire musique ensemble. c'est un métier social. On est avec les gens, on communique. C'est ça qui est génial dans ce métier. On partage ensemble, on se découvre. C'est un orchestre, c'est un instrument vivant, un instrument humain avec tout ce qui avec tous les sujets humains qui sort aussi même en faisant la musique. On joue pas que les notes. C'est ça qui m'a toujours fasciné. Et là, je suis complètement d'accord avec lui.
Et dans votre direction d'orchestre, quel est votre mode de communication à vous? J'entendais les mots de François-Xavier Roth, chef d'orchestre aussi,
oui,
qui disait que
bon chef d'orchestre, ouais.
Lui, il rêvait un jour de pouvoir diriger par sa simple présence, par magnétisme, être dans l'économie de gestes totalement. Est-ce que vous aimez communiquer avec la main, avec des grands gestes, ou est-ce qu'aujourd'hui ça passe de plus en plus par le regard, par une sorte de courant qui passe simplement avec les musiciens que vous dirigez?
Voilà, vous donnez toutes les
réponses
déjà.
C'est plein d'options, il faut cocher les cases. Hein.
Non, c'est exactement ce que vous dites. On peut faire tellement de choses, surtout par le geste. Hein. Mais c'est incroyable parce que les musiciens me disent quelquefois juste un regard que peut changer quelque chose. Hein. Mais je trouve quand même le plus important, c'est que la communication devrait être à l'idéal non verbal, hein, que c'est avec le geste. Évidemment, après, il faut avoir la parole aussi, on peut pas tout montrer. Mais tout d'abord, il faut essayer de tout montrer pour que, à la fin, il faut dire le moins que possible, hein, juste le nécessaire. Et ça, c'est le grand métier. S'il faut expliquer, de dire quelque chose en deux, trois mots, et pas faire un grand discours pour ce qu'on veut dire. On n'a pas le temps et c'est pas l'idée de la musique. Et qu'on reste dans la musique et pas dans l'explication, parce que ça, c'est pas la musique.
On parlait du partage, de cette pratique collective aussi que vous avez avec vos musiciens comme chef d'orchestre. Mais on parle peu ou moins de ce qui se passe, ce qui se joue en amont, dans l'avant, quand vous êtes, vous, à travailler sur une partition. Ça, c'est un temps que vous souhaitez, voulez vraiment solitaire. Vous avez besoin de ces moments-là.
C'est très solitaire. Hein. Les préparations, ça prend beaucoup de temps. Du premier moment où on ouvre une partition, on la lit, où on fait l'analyse, où on la marque, où on découvre, ça prend beaucoup de temps, justement, et ça dépend de l'œuvre. Hein. Une chose peut durer 3-4 mois avant, les Troyens, ça fait 15 mois que je regardais avant, hein. C'est beaucoup plus que je pensais. Mais cette préparation est très importante pour être plus efficace et plus vite et dans les répétitions. Ouais.
Dans les figures, ceux qui vous ont appris le métier, beaucoup transmis, vous citez parfois Daniel Barenboim, avec qui vous avez passé 3 ans au Staatsoper de Berlin. Et il y a un autre modèle que vous valorisez, c'est celui de l'Autrichien Nikolaus Harnoncourt. Philippe Jourdan, vous l'avez entendu tôt, je crois, quand vous aviez 13-14 ans pour la première
fois.
Oui,
on a jamais travaillé ensemble, malheureusement, mais évidemment, quand j'étais adolescent, j'allais beaucoup à l'Opéra de Zurich où il a fait tous les Mozart, mais aussi son premier Fidelio, son premier Freischütz et beaucoup d'autres choses, Offenbach d'opérette et des choses comme ça. C'était très très marquant pour moi ce qu'il avait fait, parce que évidemment au début j'ai pas compris, j'ai même détesté, et le plus j'avais la chance de voir ce qu'il fait. Je me rappelle très bien, c'était le Freischütz, une œuvre que je connaissais, que je comprenait pas à l'époque. Et il a fait d'une façon, je dis, mais c'est génial, comment il a fait, de nettoyer cette pièce, de le remettre à sa source, que c'est pas un opéra folklorique, mais vraiment un drame romantique et classique en même temps. Et là, j'ai compris, il y a quelque chose avec ce chef d'orchestre qui m'a marqué quelque part, même si j'ai jamais eu la chance de travailler avec lui, sauf une ou quelques spectacles où j'ai chanté La Flûte Enchantée sous sa direction à l'Opéra de Zurich,
oui,
un des trois garçons. Mais ça,
on a parlé
la
de votre
seule
pratique du piano, mais pas du chant.
Voilà, ça, c'était la seule
connexion
directe que j'ai eue avec lui.
Voilà, dans cette archive, il raconte son approche de la partition.
I never felt it as a revolution, but I saw that everybody else thought it is a revolution. Because for
je ne l'ai jamais considéré comme une révolution, mais j'ai bien remarqué que tous les autres voyaient cela comme tel.
Was natural.
Pour moi, l'approche d'une partition, d'une œuvre d'art, était naturelle.
To look at the work as if it was never played before.
Je pense que j'avais besoin d'aborder une œuvre comme si elle n'avait jamais été jouée avant. C'était mon point de vue depuis l'enfance. Mais je n'ai jamais vécu ça comme une révolution.
I did not feel it as a fight. In the first time, 1950s and 1960s, the musicians laughed.
Au départ, c'est-à-dire dans les années 50, 60, les musiciens viennent se moquer de nous. Ils disaient « c'est incroyable, pourquoi utiliser des instruments anciens alors que nous avons des instruments modernes ?» Ils trouvaient ça ridicule. Je n'ai pas vécu ça comme un combat, car je les comprenais. Ils ne connaissaient pas les raisons de ce travail, alors que nous, nous savions pourquoi nous faisions ça. Ils se demandaient pourquoi nous utilisions ces instruments vieux et mauvais, alors qu'il y en avait des neufs et bien meilleurs, selon eux. Quand on croit à l'évolution et au progrès, c'est une opinion possible.
C'est un chef qui vous a appris aussi à casser les codes, à transgresser les évidences d'une partition.
Oui, mais comme il disait, c'est ce que j'aime ce qu'il dit, c'est pas la révolution qu'il voulait faire, c'est il cherche la vérité. Il cherche le contenu dans la musique, dans un opéra, pour la faire revivre naturellement que ça. Et ce qu'il avait dit une fois très clairement, le pire, ce qui existe, c'est la routine. Moi, je dirais pas, il y a des belles choses dans la routine aussi, pour faire un bon métier, pour être dedans. Mais ce qu'il veut dire avec la routine, c'est la routine où on se pose plus les questions. On fait la musique parce qu'on croit la connaître. Et on se pose plus la question, qu'est-ce que le compositeur a vraiment voulu et qu'est-ce qu'il veut dire avec cette pièce? Qu'est-ce que Beethoven voulait dire avec la cinquième symphonie? Oui, on dit toujours c'est la symphonie du destin. Mais qui a dit ça? Ce n'est pas Beethoven qui a dit, c'est le destin qui frappe à la porte. Mais non. Et c'est Harlancourt qui a dit, non, c'est une symphonie révolutionnaire, c'est une symphonie politique. Oui, qui dans le sens de Fidelio cherche quelqu'un qui est emprisonné, un prisonnier politique qui va se libérer au final. Ça fait une complète nouvelle vision et ça change tous les tempi, dans l'approche sur les tempi, l'approche sur les tonalités, sur les articulations, sur le son. C'est plus un Beethoven célébré, monumental. C'est un Beethoven humain qui parle comme humain et ça m'a marqué et dans notre génération, on développe ça dans le 21e siècle encore avec ce qu'Harlancourt nous a transmis encore plus loin.
On terminera sur un enregistrement que vous venez de réaliser avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris. C'est l'intégrale des symphonies de Tchaïkovski avec un coffret DVD disponible. Les lieux, c'était à la Bastille et à la Philharmonie. Est-ce que vous retrouvez chez les compositeurs russes, chez Tchaïkovski notamment, le même sens, là encore, de la dramaturgie que chez les auteurs russes que vous affectionnez, ceux qui vous ont guidé, comme Tchekhov, parce que vous aimez aussi beaucoup le théâtre? C'est ce sens de l'humain toujours qui vous guide, en fait.
Oui, absolument. Oui, Tchekhov, c'est un de mes préférés, mais bien sûr aussi Tolstoï, Dostoïevski, je l'ai tout lu. C'est un monde, un univers extraordinaire. Et bien sûr, Tchaïkovski. Pourquoi j'ai fait un cycle de Tchaïkovski? C'est une chance extraordinaire parce que, justement, je dirige très peu l'opéra russe. Sauf Onigine, j'ai pas fait d'opéra russe parce que je parle par le russe et ça me gêne parce que j'aime bien travailler avec les chanteurs sur le texte, sur le sens du texte, sur les doubles sens, sur les dynamiques, sur les couleurs. C'est ça qui fait un opéra, c'est ça qui fait un théâtre, c'est ça qui fait une scène. Mais Les symphonies Tchaïkovski, c'est quelque chose de très très classique et en même temps très romantique. Et les symphonies Tchaïkovski, c'était une évidence pour moi parce que il y a entre les orchestres français ou la musique française et la musique russe, il y avait toujours un lien fort, et Tchaïkovski aussi qui était orienté vers l'Occident et aussi vers la France. C'était une possibilité de dire ok, ça, c'est quelque chose qu'un orchestre français, un très bon orchestre français, peut jouer d'une façon différente, justement de la vue des ultra russes sur ce répertoire. En plus, il y a quand même des perles, hein, surtout la première et la deuxième, et la troisième est un peu plus compliquée, mais aussi une symphonie très intéressante et très, très importante pour son développement, de faire découvrir aussi des choses que le public n'entend quasiment jamais, même si c'est le grand nom Tchaïkovski.
Merci beaucoup à vous, Philippe Jordan. Merci.
Merci à vous.
Les Troyens de Berlioz, à voir et à écouter, dirigé par Philippe Jordan à partir du 25 janvier à l'Opéra Bastille. Un coffret DVD disponible donc de l'intégrale des symphonies de Tchaïkovski bientôt à la mi-mars chez Arthouse Music. Merci beaucoup à Cyprien de Limerville pour la prise de son et à Milena Elik pour la réalisation de cet entretien préparé par Henri Leblanc et Jeanne Copé.